savez, peu importe ce qui peut nous arriver, lorsqu'on est dans la sombre vallée, justement comme on a chanté,
on est toujours au Seigneur. Peu importe. Bon, ça fait-tu le fil? Comme ça. On va venir demander à Vianney de venir m'atteler. Lorsque on passe dans des situations périlleuses, des situations dangereuses, la sombre vallée, là, puis on voit dans le champ aussi que le dernier ennemi, puis vous savez, on est en guerre. Il y en a un ennemi. Faut pas négliger cet aspect-là. On va commencer notre lecture ce matin, je vais vous parler d'après un commentaire de John MacArthur sur l'Épître aux Galates. On va commencer au chapitre 1. L'Épître aux Galates, on va lire les versets Galates, chapitre 1. C'est un commentaire qui nous parle de comment l'apôtre Paul est venu aux Galates pour les avertir d'un danger. Puis vous savez, on court tous ce danger-là. On a tous besoin de s'attacher vraiment à la parole de Dieu, puis de se le redire, puis, parce qu'on est du côté du vainqueur. On est vraiment, on appartient au Seigneur, puis on appartient au Seigneur pour notre vie, puis pour l'éternité. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Épître aux Galates, chapitre 1, à partir du verset 6. Chapitre 1, à partir du verset 6. On va lire ces versets-là, 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Puis ça, on lit ça, puis je me souviens au début de ma vie chrétienne, on se disait, hey, c'est l'évangile, c'est le salut par grâce dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, dans sa simplicité. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, marcher comme un homme, ils ont enseigné, il est mort sur la croix pour nous racheter. Puis on comprenait ça comme des enfants. Mais vous savez, les temps avancent, les années avancent, puis il y a des gens qui viennent. Puis vous savez, l'ennemi, comme on a parlé tantôt, l'ennemi souvent... Nous autres, on était dans la religion catholique pour la plupart. Ça fait que comment est-ce que quelqu'un viendra essayer de nous prêcher la religion catholique? On dit, regarde, écoute, il n'y a pas de problème avec ça, là. La religion catholique, on l'a connue, c'est une religion, puis on appartient au Seigneur maintenant, on est des chrétiens nés de nouveau. Mais si l'ennemi vient de l'intérieur en venant modifier l'évangile qu'on a reçu parmi nous, c'est là le danger. C'est là qu'est le danger. Alors, nous autres, on est du côté du vainqueur. Si quelqu'un vient nous dire qu'il y a un autre évangile, c'est qu'il soit anathème. Puis ça, on tenait bien à ça. Mais pour réussir à garder toujours le cap, pour réussir à rester toujours du côté du vainqueur, à ne pas se laisser obscurcir, il faut s'attacher à la parole de Dieu. Il faut la lire, il faut la scruter, il faut l'étudier, il faut se l'accaparer. Le Seigneur a dit, je vais mettre mes paroles dans votre cœur, je vais les graver dans votre cœur, pour pas que vous les oubliez, puis il faut continuellement se replacer. On va aller lire un petit exemple dans Josué. Josué, avant qu'il prenne Jéricho, Josué chapitre 2. Josué chapitre 2. On va lire le texte ici de Rahab, qui a caché les espions, puis il y avait une condition à cela. Josué, après Deutéronome, Josué, à partir du verset 1 du chapitre 2, « Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant, « Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. » Et ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés dans les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens la poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. » Elle avait compris, Rahab, que les espions, les gens d'Israël étaient venus chez eux, mais avaient compris, en ayant entendu ce qui s'avait passé avec le peuple d'Israël qui s'en venait vers le pays où elle habitait, que c'était le peuple de Dieu, puis elle croyait en ce peuple-là par les prodiges qu'elle avait entendus. Elle avait été touchée, comme nous autres, quand on a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, il y a des personnes qui sont venues vers nous, qui nous ont annoncé l'Évangile, qui nous ont parlé de la personne du Seigneur Jésus-Christ, puis on a vu que c'était le seul moyen. Le Seigneur a ouvert nos cœurs, puis on a compris. Puis c'est comme ça que, la même façon un peu qu'elle, Rahab, elle a été touchée par vraiment les prodiges que l'Éternel avait accomplis à travers son peuple. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux. C'était pas rien, là. L'Éternel avait mis à sec les eaux de la mer Rouge devant eux. Regarde, c'est un peuple important. Puis le Dieu de ce peuple-là, moi je veux me l'accaparer. C'est ce que c'est qu'elle s'est dit. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit? Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux, en bas, sur la terre. Ça, faut pas oublier ça. C'est la même chose pour nous autres. C'est le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu, c'est lui qui est en haut, qui est Dieu en haut, qui est Dieu sur la terre, qui est Dieu partout dans tout l'univers. C'est des choses importantes à se rappeler continuellement, mais nous autres les hommes, on a besoin continuellement, comme je le disais tantôt, de rester attachés au fondement, à la parole de Dieu. Il y a un frère âgé qui disait à un autre jeune frère qui avait accepté le Seigneur, puis qui avait c'est lui-même qui l'avait conduit au Seigneur, qui lui avait enseigné la parole de Dieu, qui l'avait emmené au salut. Puis plusieurs années par après, il lui dit on dirait que t'as pas évolué. Mais la personne lui dit, mais j'ai entendu ce que tu m'as dit, j'ai cru, je l'ai pris pour moi, puis j'ai continué de toujours étudier ce que tu m'as donné, ce que tu m'as laissé, la parole de Dieu, le salut en Jésus-Christ, par grâce, le Nouveau Testament. Peut-être que le plus vieux frère s'était éloigné un peu. Mais c'est triste de voir ça, mais il faut rester attaché solidement à la parole de Dieu. Il faut continuellement se référer à la parole de Dieu, à la base, pour pas être emporté. Parce que, comme je vous disais tantôt, l'ennemi vient de l'intérieur, souvent. Quand le Seigneur parle des faux docteurs, c'est à l'intérieur, ça. C'était des personnes qui enseignaient de l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut toujours garder les yeux sur la parole de Dieu. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Les villes étaient entourées, Jéricho, on sait qu'elle était entourée d'une muraille assez haute. Puis les maisons qui étaient dos à la muraille et leurs fenêtres donnaient le long de la muraille. Ça fait que ça, ils ont descendu avec une corde le long de la muraille, puis là, ils étaient hors de la ville, puis ils ont pu s'en aller. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent, car cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui disent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre, par lequel tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. » Là, lui donne un conseil. Attache un cordon, puis amène dans ta maison tous ceux de ta famille, puis tous ceux-là qui vont vouloir vraiment croire ce que tu vas leur dire, que cette maison-là va être épargnée, Puis c'est ce qu'elle a fait, elle a mis ses proches, et comme nous autres, on vient au Seigneur, puis là, ce que c'est qu'on fait, on essaye tout de suite de rapporter le plus de monde de nos proches, de nos meilleurs amis. Bien souvent, les premiers qu'on va témoigner, c'est notre meilleur ami, ou si c'est notre frère ou notre sœur dans l'affaire, nos parents, on va vers eux pour leur dire que c'est important qu'ils se mettent sous la grâce, parce que le jugement de Dieu va venir sur les nations, comme Josué s'en venait avec l'armée pour détruire la ville de Jéricho. C'est ça qui est important. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. C'est-à-dire qu'ils ne toucheront pas ceux qui sont dans la maison. Puis ceux qui vont sortir de la maison, bien, les autres, ils vont être punis, puis leur sang va tomber sur leur tête. Ceux-là qui ne voudront pas rester, ça veut dire qu'ils n'auront pas la vie sauve. Ils seront pas épargnés. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que nous t'avons fait faire. Elle répondit qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Rahab, si elle aurait dit, ouais, mais là, regarde, ils ont bien vu ce que c'est qu'ils ont sorti, là. Ils savent que c'est là, la fenêtre, là. Mais il avait donné une directive, attacher un cordon, un fil cramoisi de couleur, sous le long de la fenêtre. Ça, c'était la marque. Comme le sang qui avait été mis sur les linteaux. L'Ancien Testament, il est imagé. Il y a des images, il y a des repères. La parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, nous parle plutôt d'une repentance du cœur. C'est pas des faits, c'est pas des images, c'est pas physique, c'est spirituel, c'est dans le cœur. C'est un salut qui nous appartient, qui est scellé. C'est pour ça que c'est un salut que personne, le cordon, il aurait pu partir au vent, comprenez-vous. Mais Dieu avait sa main là-dessus, c'est sûr, mais c'est une chose physique. Mais le salut par grâce, ce qui nous est arrivé lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur, ça s'est passé à l'intérieur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est parce que ça vient de l'intérieur. Dieu nous a rachetés, nous a sauvés, puis le Seigneur Jésus-Christ nous dit que le salut tient de lui. Personne ne vous ravira de ma main. Parce que vous m'appartenez. Je connais mes brebis, elles connaissent ma voix, elles m'entendent et elles me suivent. Ça, c'est merveilleux. Des paroles du Seigneur, je connais mes brebis. Puis ça, je loue le Seigneur parce que lui, il nous connaît premièrement. Si on dirait, ouais, je le connais. Je me souviens, à un moment donné, il vient un homme dans notre assemblée, à Saint-Anne-des-Monts. Un homme d'apparence, un homme... de bien, qui a des grands biens, un homme qui est exubérant, qui rentre, qui écoute un message, il est tout emballé de ça, la grosse médaille du Seigneur dans le cou, on va lui parler, après, moi je vais le rencontrer, je suis content qu'il soit venu, je vais lui parler du Seigneur, puis tout ça, je lui dis, hey, c'est merveilleux que tu sois venu entendre la parole de Dieu, puis je commence à lui prêcher le salut en Jésus-Christ, mais il dit, hey, c'est pas nouveau moi là. Ça fait longtemps que c'est mon grand chum, ça. Fait que ça n'a pas toffé longtemps. Ça a toffé à peu près une semaine quand on l'a rencontré pour lui parler de repentance et d'humilité. Il nous a carrément mis dehors. Cet homme-là n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. Lui, il s'avait fait une religion. Il s'avait fait un plan. Mais Dieu, c'est le seul plan qui fonctionne, c'est son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. À moins que vous ne deveniez comme des petits-enfants, comme il disait au docteur, vous ne pourrez hériter le royaume de Dieu. Tu peux pas t'arriver devant Dieu et dire, bon, ben moi, Dieu, là, tu te rappelles-tu de moi? Tu sais, c'est moi là qui a parlé de ton fils, puis il va dire, je ne vous ai jamais connu. Mais là, Dieu, il nous connaît avant qu'on le connaisse. Bien sûr qu'il se rappelle de nous autres, on n'a pas besoin de dire ça. Il se rappelle de nous autres, il nous connaît. Dès le commencement, il nous a écrit, il a écrit notre nom dans le livre de vie. Puis on reconnaît l'homme de Dieu par ses gestes, par ses réactions. Lorsque l'homme de Dieu est porté à s'humilier, lorsque l'enfant qui s'approche de Dieu voit la position, sa position face à Dieu, on peut pas faire autrement que s'abaisser. Parce qu'on n'est rien. On n'était même pas de son peuple. Nous autres, on est des païens. Nous autres ici, dans l'Amérique du Nord, on était des païens. On n'était pas le peuple appelé. Puis il est venu vers nous, puis il nous a donné la vie éternelle. Alors, on voit ici que la condition, c'est que elles mettent le cordon, puis que tous ceux qui étaient dans la maison soient épargnés du châtiment qui s'en venait sur cette ville-là. On sait ce que Rahab, elle a été citée même dans le Nouveau Testament suite à ce qu'elle avait accompli. Il y a des hommes qui vont venir à nous puis qui vont nous amener. Je me souviens à un moment donné, il y a quelqu'un que j'ai dit, il s'avait approché, on lui avait témoigné du Seigneur, puis c'était un homme de grand génie. Puis je vais chez lui un soir, puis je commence à lui parler, puis j'ai dit, c'est quelque chose, le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre, puis... Ah, il dit, tu parles-tu? Il dit de la fable, là, il dit qui est écrit, là. J'ai dit, non, je parle de la parole de Dieu, la seule et véritable, la Bible. Ah, mais je suis rendu bien plus loin que ça, moi. Il dit, t'es rendu trop loin. T'as passé droite. Faut que tu reviennes. Les gens ont toutes sortes de moyens de s'en sortir. Au lieu de dire, qu'est-ce que c'est? Moi, je me souviens, mon père, quand on était jeune, j'avais compris quelque chose. Quand il arrivait, je faisais une gaffe ou que je faisais quelque chose, j'avais compris qu'en allant tout de suite lui dire ça, puis en allant tout de suite m'excuser puis me repentir de ce que j'avais fait, ça se réglait pas mal plus vite qu'un de mes frères qui, lui, s'entêtait puis qui choquait puis qui y allait pas. Fait que moi, j'allais voir mon père, je regarde, papa. C'est mon père, c'était papa, là, moi, dans mon temps. Regarde, j'ai fait telle affaire, j'ai fait ça, je suis coupable. C'est quoi le châtiment? Il disait, ben. Fait que là, c'était moins pire. Mais si, parce que là, il voyait que j'étais disposé. Moi, ça me faisait tellement de quoi d'avoir fait une gaffe que je voulais régler le problème le plus vite possible. Fait que j'allais voir la personne qui était le plus susceptible de réagir, puis j'y confiais ça. Ça m'a évité dans ma vie de jeunesse beaucoup de tourments puis de problèmes que mes frères n'ont pas su faire parce qu'eux autres, ils s'astinaient avec, puis ça finissait souvent par des semaines de tourments. Ouais, il est vrai que parfois les choses du monde peuvent paraître succulentes. Elles peuvent paraître attirantes, mais elles sont très amères. Le goût reste longtemps dans notre bouche. On va regarder dans le Proverbe, c'est un verset qui m'a souvent arrêté. Dans Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20. Au verset 17. Le pain du mensonge est doux à l'homme. Et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Hein? Ça paraît doux des fois, là, ça, là, quand tu comptes un mensonge, tu as l'impression sur le coup que tu t'en es sorti, mais là, ça se met à mal aller par après, parce que là, il faut tout le temps que tu en rajoutes. Puis, ce que c'est qui paraissait comme du miel devient comme de la gravelle. On peut faire, là, ça devient comme du gravier. C'est pas quelque chose qui est plaisant. Fait que pour se ramener un peu dans notre contexte, ne vous y trompez pas. Les types de personnes, il y a deux types de personnes dans la parole de Dieu qui nous sont citées dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament parle de deux catégories générales de personnes que Dieu a vouées à la destruction. La première contient quiconque n'aime pas le Seigneur. Quiconque n'aime pas le Seigneur, ça c'est dans 1 Colossiens 16, 22. Puis la deuxième est celle des faux docteurs sur lesquels Paul appelle deux fois anathème. Jésus a prévenu ses disciples qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Les faux docteurs sont les enfants de leur père, le diable, et ils veulent accomplir les désirs de leur père, qui, lorsqu'il profère des mensonges, parle dans son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge, on sait ça. Paul rappelle à Timothée qu'il a livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Les gens de cette sorte qui étaient au nombre des dirigeants de l'église d'Éphèse, on voit ici que ces personnes-là étaient au nombre des dirigeants de l'église d'Éphèse. Alors, on a d'autant plus, nous autres, à surveiller vraiment lorsqu'on est appelé à prendre des décisions dans une église, dans une assemblée, lorsqu'on est appelé à se prononcer puis à enseigner ou à faire suivre des règlements, ben assurons-nous que les règlements sont directement liés à la parole de Dieu. Que ça vient pas de nous autres. Qu'on n'est pas là, nous autres, pour paraître. On n'est pas là, nous autres, pour une renommée. Vous savez, je voyais un homme l'autre jour à la télévision qui faisait des miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui guérissait des personnes. Puis c'était tellement frappant. Puis on voit les gens qui sont engourdis, qui sont endormis par ces personnes-là, parce que c'est des manipulateurs, qui sont là, des milliers de personnes. Puis je suis garanti là-dedans qu'il y a des chrétiens qui sont là. Il se nomme lui-même chrétien évangélique, puis qui fait des guérisons avec à peu près 12 bagues dans les mains, puis habillé comme un king avec les gros colliers. Puis il fait ça au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais il fait partie, il est dans des assemblées, il est dans des regroupements de chrétiens, cet homme-là. Mais les gens, ils ont été engourdis, ils ont été aveuglés par ces personnes-là qui ont des pouvoirs de manipulateurs. Puis ça, c'est ce qu'on a à veiller. Il faut dénoncer les faux, ne pas avoir peur de les confronter. Pas avoir peur de les confronter. Ça, des fois, ça peut être difficile d'arriver à quelqu'un, puis surtout quelqu'un qui a de l'apparence, qui a du verbe, qui a de la connaissance, qui a de la richesse. Approchez-vous donc d'un bateau, d'un yacht de 300 000 $, vous, avec un petit speeder de 12 pieds, puis un 24 fois sans dormir, pour lui demander d'embarquer avec vous autres parce qu'ils sont en danger, que la vague du tsunami s'en vienne, et qu'est-ce qu'ils vont vous dire? On dirait, ah, mon garçon, ils te verront peut-être même pas. Possiblement qu'ils te verront même pas. Ils sont pas dans le besoin, ces personnes-là. Ils sont sur un yacht de 300 000 $, mais ils s'en vont vers la mort. Ils le savent pas. Tu lui dis, mais toi, tu parais pas quand tu t'approches. C'est pour ça que la personne, il faut qu'elle s'humilie, puis qu'elle descende à ton niveau pour comprendre. Si elle reste sur son château, elle pourra pas te voir. Puis les personnes qui viennent, qu'on va pour les enseigner, pour leur parler du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, George Mueller, je disais suite à ce qu'on a parlé mercredi, on parlait de George Mueller puis de Hudson Taylor, puis j'avais un écrit sur George Mueller qui me disait que quand il y avait ces orphelinats en Angleterre, un matin, il n'y avait plus rien à manger. Puis, il a mis les assiettes sur la table, les bols, puis il a assis les enfants de l'orphelinat. Mais il n'y avait plus rien. Puis, il a dit, on va prier. Puis, il a dit, Père, je te remercie pour ce que tu vas nous donner comme nourriture aujourd'hui. Puis, pendant qu'il priait, ben le boulanger est arrivé, puis il a cogné à la porte, et dit, je sais pas ce qu'il m'a pris, il dit, j'ai fait du pain cette nuit, puis je me suis levé, puis le Seigneur m'a mis à cœur de faire du pain, puis là, il dit, je n'ai fait bien trop, fait que là, il dit, je vous en amène. Puis là, suite après ça, il y a un laitier qui passait avec sa charrette, puis la roue a cassé, vis-à-vis, l'essieu a cassé vis-à-vis de l'orphelinat, puis là, le lait, là, il pouvait plus livrer son lait, fait que là, il dit, garde, moi, je vous en donne, je pourrai pas le livrer, puis je vais perdre ça. Fait qu'il est rentré, puis il a donné du lait. Mais est-ce que George Mueller, s'il aurait eu un budget là du gouvernement d'Angleterre là assuré là à chaque mois la grosse paye qui rentre là avec tout le gros kit parce que là les communautés seraient mêlées de ça puis les regroupements pour pas que les enfants manquent de quoi que ce soit puis les petits bocals de lait vous savez à l'école dans les écoles aujourd'hui c'est important que les enfants manquent de rien puis toute cette histoire là est-ce que George Mueller aurait pu vivre cette bénédiction là? Est-ce que moi je me souviens quand je suis venu au Seigneur les premières années, qu'on était dans un temps quand même de crise, là on est dans un temps d'abondance. Pour ma part, là, je pense qu'on est dans un temps d'abondance. Dans ce temps-là, là, il n'était pas question de penser à s'acheter une voiture neuve ou de penser à s'acheter une maison ou quoi que ce soit. On s'organisait avec ce qu'on avait. Mais on a vécu des grandes bénédictions. Vous savez, on a besoin d'avoir besoin. On a besoin d'avoir besoin du Seigneur pour avoir des bénédictions. Si on a tout ce qu'il nous faut, puis on est dans notre confort, puis que tout va bien, il arrive quelqu'un, tu ne demandes pas grand-chose, tu n'as pas grand-chose à demander, tout va numéro un, tout va bien. Tu as ton travail, tu as ta maison, tu as tes richesses, tu souffres pas. Tu n'as pas besoin de crier au Seigneur. Mais là, c'est d'autant plus important de s'attacher au Seigneur. On a autant besoin, par exemple, puis même, je dirais plus, besoin du Seigneur, mais dans notre cœur. On a besoin vraiment d'être touché dans notre cœur pour aller vers les hommes qui se perdent. Parce que les hommes, ils continuent de se perdre, eux autres. Les hommes, là, quand même, que ça va bien pour nous autres, là, ça va pas bien pour le monde. C'est le Seigneur nous bénit. C'est un temps, on sait pas combien qu'on peut être de temps. On peut retomber dans une crise. Mais si on tombe dans la crise, dans 2, 3 ans, 4 ans, est-ce qu'on va être encore aussi joyeux? aussi, je pense qu'on va peut-être, on serait peut-être plus joyeux d'appartenir au Seigneur, parce qu'à chaque jour, on s'attendrait à lui pour le nécessaire. Mais quand tu n'as pas besoin du nécessaire, c'est comme moins tragique, c'est comme moins important de crier à Dieu. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'attacher au Seigneur, puis rester les yeux fixés sur le but. Les gens qui sont entrés dans les assemblées, on va vous lire ici un petit passage de John MacArthur. Satan a en effet réussi ses tromperies les plus destructives par des faux docteurs inspirés par les démons qui se font passer pour des émissaires de Dieu. C'est lorsque ses prêtres et ses prophètes ont édulcoré. Édulcorer, c'est un terme qui veut dire atténuer la dureté d'expression, la rigueur, atténuer la dureté, adoucir. On dit que le sucre, c'est un édulcorant, c'est ça que tu me disais, Denis, c'est quelque chose qui va changer le goût, ça va modifier le goût. Fait que ces docteurs-là, ils rentrent, puis ils vont placer des choses, ils vont dire des choses, ils vont rajouter un iota à la parole de Dieu, qui vont adoucir la parole de Dieu, qui vont changer le sens de la parole de Dieu, qui vont adoucir, pas si pire que ça, on évolue, on peut évoluer, hein, mais la parole de Dieu change pas. La parole de Dieu reste la même hier, aujourd'hui, demain. Il n'y a rien que Paul redoute plus pour la vie des églises que la fausse doctrine, parce que celle-ci est la source cachée de la conduite impie. Le souci profond qu'il a pour le bien spirituel des croyants de Corinthe serait tout à fait à sa place dans l'Église contemporaine. Le souci profond qu'il a pour le bien spirituel des croyants de Corinthe serait tout à fait à sa place dans l'Église contemporaine aujourd'hui. On lit ça, on regarde qu'est-ce que c'est que Paul disait, pourquoi que Paul était tellement attristé de ça, puis qu'il est allé vers eux autres pour les avertir. Il dit, je me rends compte que pourquoi que vous vous êtes détourné si promptement. Promptement, ça veut dire aussi rapidement, des personnes qui avaient entendu la parole de Dieu, des personnes qui étaient tout joyeux de connaître le Seigneur, qui étaient tout joyeux de comprendre le plan de Dieu pour eux, puis là, sont en train de, mais pas doucement, mais promptement, ils se détournaient promptement parce que quelqu'un était rentré dans l'assemblée puis est en train d'enseigner une doctrine. Je me souviens, à un moment donné, moi, dans les années 90, je pense, il est arrivé un mouvement que, là, les chrétiens, dans les assemblées chrétiennes, des chrétiens solides, des chrétiens qu'on connaissait, qu'on partageait avec eux autres, ils se sont fait engourdir par des gens qui sont rentrés dans l'assemblée, puis ils leur ont dit qu'ils n'avaient pas vraiment eu la communion, ils n'avaient pas connu la vraie grâce, là, l'explosion d'amour. Ils les ont fait croire ça. Puis là, ces personnes-là, ils ont été toutes comme déstabilisées. Puis là, ils se sont mis à rechercher ça. Mais dans leur recherche pour un spectacle là, physique, humain, ils ont perdu du temps. Ils ont perdu un temps fou. D'autres se sont éloignés. D'autres ils ont quitté les assemblées parce qu'ils recherchaient ça. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de plus que de savoir que Christ est mort pour nous, qu'il nous a donné la vie éternelle? Puis on se souvient, là, c'est pas pareil pour tout le monde, le salut. C'est le même salut, mais ça n'a pas le même impact sur chaque personne. Moi, je savais pour ma part, j'ai ressenti une paix quand on s'est mis à genoux le soir, puis qu'on a dit, Seigneur, viens dans notre vie, puis on te donne notre vie, puis on a compris qu'on pouvait plus gérer notre vie spirituelle, qu'on la connaissait pas, qu'on la comprenait pas, puis que c'était le Seigneur Jésus-Christ qui avait payé le prix pour nous, puis qui nous offrait sa vie dans sa personne, dans sa mort sur la croix. On a dit, c'est merveilleux ça, c'est ça la vie, c'est ça le chemin à suivre, c'est lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puis ça m'a suffi. Mais pourquoi quelqu'un viendrait nous dire plus tard, par après, que non, ça que c'était pas le vrai spasme, c'était pas le vrai, fallait que ça prenne une explosion plus grande que ça. Non. Mais ça, ça vient de l'intérieur. Ça sort, c'est des faux prophètes. C'est triste de voir des chrétiens qui s'abreuvaient à la source véritable, boire à des citernes infectes et crevassées qui ne retiennent même pas l'eau. Ça, c'est Jérémie. On va tourner dans Jérémie, on va le lire. Jérémie, chapitre 2. Jérémie, chapitre 2, versets 11 à 14. Jérémie, chapitre 2, verset 11. « Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoi qu'ils ne soient pas des dieux? » Vous savez, là, les nations là, qui ont des dieux, là, c'est comme Mao Tse-tung, puis les communistes, puis toutes ces nations-là, Bouddha, Krishna, Dieu ne fera pas virer de bord, puis Allah, là, les musulmans. Va d'essayer de les virer de bord, eux autres, de rentrer dans leurs histoires puis de les faire croire à d'autres choses que leur Dieu. Tu vas frapper un mur. Mais nous autres, qu'on a le vrai Dieu, puis eux autres, c'est même pas des vrais dieux. Il dit, y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoi qu'ils ne soient pas des dieux, en plus. Puis ils ne changent même pas. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Ils m'ont abandonné pour se creuser des citernes crevassées. C'est terrible. Quand Dieu est la source d'eau vive, puis il nous le dit, puis on irait boire à d'autres choses, on irait creuser des citernes crevassées. Moi, ça me fait penser aujourd'hui, nous autres sur la terre, où ce que Dieu avait mis l'eau si limpide, où ce qu'on avait de l'eau, nous autres, dans nos régions, comme chez nous, en Gaspésie, la fontaine était après la montagne, là, en arrière de la grange, à 250 pieds. Puis elle est encore là, la fontaine. Puis l'eau est encore super bonne dedans, parce qu'il n'y a pas de vidange en haut, il n'y a pas de village en haut, il n'y a pas de ville en haut qui ont pollué, l'eau sort encore de la montagne. C'est merveilleux, mais c'est rien de... C'est parce que c'est loin, dans la dernière maison du village, puis il n'y a jamais personne qui a pensé de se bâtir en arrière du port à vache chez nous. Ça restait de même, puis c'est à cause de même. Puis quand je vois des bouteilles de plastique, de l'eau dans des bouteilles de plastique. Il y a un chanteur qui chante, Francis Cabrel, « Mon ami, le ruisseau dort dans une bouteille en plastique. » Ouais, le ruisseau, il dort dans une bouteille de plastique. Mais de l'eau, méfiez-vous de l'eau qui dort. Elle peut être bonne, cette eau-là, mais c'est rien à voir avec de l'eau de source. De l'eau dans une bouteille de plastique. Puis c'est rendu comme ça aujourd'hui à cause de la pollution, à cause des hommes, à cause du péché de l'homme. C'est comme ça. C'est triste. Mais nous autres, quand on a la source d'eau vive, ça c'est physique ce que je vous parle. Mais la source d'eau vive, la source spirituelle qui est Dieu, lui, c'est une source intarissable. Il dit, si vous vous abreuvez, comme il disait à la femme samaritaine, si vous vous abreuvez à cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Des fleuves d'eau vive couleront de votre sang. Puis on dirait, nous autres... à puiser dans des citernes crevassées qui ne retiennent même pas l'eau. Puis quand les citernes sont crevassées puis ne retiennent pas l'eau, qu'est-ce qui rentre dans les citernes? C'est de la vase, c'est de l'eau, c'est des fonds de vase, c'est infect. Puis il y en a qui préfèrent boire à ces citernes-là plutôt que d'aller à la vraie source d'eau vive. Puis d'autant plus son peuple qui, lui, a connu le Dieu véritable. Les autres peuples, ils ne sont même pas des vrais dieux. Mais lui, il dit, moi, je suis le vrai Dieu, je suis le Dieu de toute éternité, puis je suis votre Dieu, puis vous préférez aller à d'autres dieux, à des citernes crevassées. On est sorti d'une religion, se méfier de ceux qui nous en proposent un autre, comme je vous disais tantôt. Si quelqu'un arrive avec un autre affaire, là, puis qui vient va essayer de vous faire un mirage, vous dire non, la façon de fonctionner, c'est pas comme ça, c'est comme ça, vous devez aller dans ce sens-là, parce que non, vous autres, c'est plate votre affaire. Mais vous savez, le Seigneur ne regarde pas au spectacle. Moi, j'ai vu des campagnes d'évangélisation où il pouvait y avoir des milliers de personnes, puis après que cette campagne d'évangélisation-là a passé, on n'a pas vu personne. Et c'est pratiquement rien passé. C'est un spectacle. Mais j'ai vu, par exemple, des réunions de maison autour d'une table où on est allé, il y a des personnes qui sont allées voir des gens, discuter de la parole de Dieu avec eux autres en toute simplicité, puis on a vu des conversions. C'est dans la simplicité que Dieu se manifeste. Dieu ne se manifeste pas dans les apparences d'hommes. À partir du moment, je ne dis pas que là, les campagnes d'évangélisation, c'est pas bon. Mais à partir du moment que tu le fais pour paraître, tu le fais pour faire un spectacle, pour te donner de l'importance, tu sais, ça, tout dépend de l'intention du cœur. Si dans ton cœur, la chose principale, c'est parler du Seigneur aux gens, c'est de leur dire qu'ils sont en danger de mort et qu'il faut qu'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils s'en vont en enfer, c'est pas quelque chose qui est populaire aujourd'hui. Ça fait que les gens vont utiliser des moyens pour essayer d'adoucir ça, édulcorer, que j'ai dit tantôt, édulcorer, adoucir, ouais, la sucarine, adoucir le message pour que ça passe mieux, parce que là, on voudrait pas les frustrer, puis on voudrait pas leur faire du tort, mais on les envoie en enfer. C'est pas si grave que ça. C'est pas si pire que ça. Non. On peut pas tout mettre ça au pied de la lettre, là, voyons, tu sais, ça. C'est une histoire. Il y a des gens qui nous disent ça. Ah, mais c'est une histoire, ça. C'est une fable. C'est la parole de Dieu. Ça, c'est ce que c'est qui est. C'est la chose, c'est le livre le plus important qui a été donné sur cette terre. C'est le livre le plus vu aussi. C'est le plus traduit, le plus écrit. Pourquoi que la Bible est encore actuelle de nos jours? Parce que c'est la parole de Dieu. C'est une parole vivante. C'est le journal d'hier, d'aujourd'hui, puis de demain. Elle va vivre éternellement, la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ était la parole. Lui qui était la source d'eau vive. C'est des choses, vous savez, qu'on a besoin continuellement, comme je vous disais tantôt, de scruter la parole de Dieu, de la lire, de l'étudier continuellement. De s'en imprégner pour pas être attiré à tout vent de doctrine. Parce que vous savez, les docteurs, quand on parle d'un docteur, là, un docteur là qui vient enseigner des choses, là, c'est impressionnant. Hein? C'est impressionnant, c'est un docteur. Là. Il va arriver un médecin ici là, qui va rentrer demain matin. Là, puis vous allez dire, hey, c'est un docteur. Assisez-vous là. Hein? Mais quelle importance qu'il y a de plus qu'un autre homme. Dieu nous voit tout égal, lui. Il nous voit pas comme des docteurs, puis il nous voit pas comme des capitaines, puis il nous voit pas comme des mendiants. Et un homme, pour lui, c'est un âme, puis il donne la même place. T'as le droit à la même place devant Dieu. C'est merveilleux. Ça, c'est la simplicité de l'Évangile. De là l'importance de lire la parole de Dieu, de la scruter, de la méditer, de la vivre. Ça, c'est l'autre aspect. Je vous ai parlé de la méditer, de scruter, de la lire. Puis après ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez la vivre. C'est sûr et certain que vous allez la vivre parce que vous l'avez en vous, parce que vous la vivez, parce que vous vous êtes abreuvé à la source d'eau vive. La source qui n'est pas crevassée, pas une citerne crevassée. Vous vous êtes abreuvé à la vraie source, au vrai Dieu. Le Dieu de notre salut. Pour être capable de discerner les faux enseignements, méfiez-vous de ceux qui découvrent autre chose. Ne pas se laisser endormir. Vous savez, ceux qui... pour ça, on a besoin de suivre vraiment l'instruction du Seigneur Jésus-Christ pour marcher dans ses voies. Demain matin, vous montez, vous en allez aux États-Unis, puis vous rentrez dans la ville de Chicago, Détroit ou New York, puis vous n'êtes jamais allé là. Mais vous avez une carte. Je ne sais pas ce que va être la carte. Ou ce que va être votre carte routière de la ville de New York ou de Détroit, là, quand vous allez rentrer dans New York. Je pense que vous allez arrêter avant, vous allez l'ouvrir, puis vous allez la plier là, exactement où c'est que la ville, là, puis vous allez marquer ça là, avec un crayon. Là, pas un GPS, on voit ce que ça amène, ça t'envoie une intrigue de skido. Il y a une fille. Mais la carte est encore plus, l'écriture est encore plus. Vous allez noter là, exactement, puis là, vous allez, si vous êtes deux, là, il y en a un qui va vous dire, là, à telle rue, là, il va falloir que tu vires à droite, parce que là, vous voulez pas, c'est grave se perdre à New York. C'est grave. Mais c'est grave se perdre aussi pour l'éternité. Fait que ce qu'on veut, c'est qu'on veut suivre les directives. Puis on veut que les gens qui nous entourent soient bien certains que c'est ça qu'on leur enseigne. La carte routière pour le ciel. L'enseignement est là. La parole de Dieu, la base. Elle est simple à suivre. Une carte routière, hein, c'est très bien fait. Tu as les avenues principales, les mains, puis tu as les numéros de route. Puis quelqu'un qui étudie un petit peu plus loin, là, ben il sait que les routes à deux chiffres, ben c'est des autoroutes. Puis les chiffres pairs, c'est de l'est à l'ouest, puis les chiffres impairs, c'est du nord au sud. deux petits affaires qui sont importantes à savoir. Si tu t'en vas vers l'ouest, puis tu roules vers la Floride, puis que tu regardes le numéro de route, puis c'est la 86, la 89, tu dis non, là, ça marche plus le 89, là, parce que d'est en ouest, c'est pair. Nord au sud, c'est impair. Oh, c'est pas bon, là, je m'en vais vers le nord ou vers le sud. Là, tu regardes 89 sud. Oh, vous revenez, c'est ouest que je m'en vais. Fait que c'est des choses qui sont importantes. Mais pour ça, il faut que tu étudies, que tu aies une connaissance du chemin que tu as pris. Puis rester dans ce. Le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors on va où? On suit le chemin, la vérité et la vie. On suit la parole de Dieu, qui est lui-même la parole, le Seigneur Jésus-Christ. En terminant, je vais vous raconter une petite histoire pour une autre petite histoire. Il y a un gars qui faisait du pouce sur l'autoroute de Halifax vers Bedford, puis il pleuvait à Sio. Fait que mon frère Gérald, il arrête dans son nombre de chrétiens, en même temps pour lui parler du Seigneur, parce que Gérald, il embarque pas personne pour le fun, ou il amène pas personne chez eux pour le fun. C'est toujours un but bien précis, c'est de lui prêcher la parole de Dieu. Fait que le gars, il est sur le pouce, puis Gérald, il peut embarquer n'importe qui, il est fantasme pas mal. Fait qu'il y a un gars avec les grands cheveux longs, la barbe longue, puis il fait du pouce, puis il est tout trempant en torse, mais ça, c'est pas grave, je l'embarque ça dans le char, puis envoyé à la maison, il fait prendre sa douche, puis il l'assit là, puis commence à lui parler. Puis là, le gars, il revenait de son bon sens, là, après avoir pris sa douche, puis tout ça, puis avoir mangé, puis tout. Puis là, Gérald commence à lui parler du Seigneur, puis il commence à lui parler du Seigneur, mais il est comme rétif un peu. Rétif, hein, tu sais c'est quoi, rétif? Quand on avait un petit veau qui était rétif, là, il voulait pas passer dans la porte de table. Ça fait que là, plus que Gérald avance dans son message pour l'amener au Seigneur, il se rébiche, puis il est pas content, puis là, il se massacre, puis wow, là, Gérald, hey, tu sais moi, le Seigneur Jésus-Christ? Gérald dit, oh non, non, c'est pas toi. Il dit, t'en rembarques dans le char, je vais te reporter sur l'arrière. Il l'a rembarqué en char, il était là, il l'a reporté sur l'autoroute. Il faut être capable de les affronter, par exemple, de les confronter, ces personnes-là. Parce que c'est des personnes qui sont arrogantes. C'est des personnes qui sont épris d'eux-mêmes. Puis tant que cet homme-là n'aura pas compris que c'est pas lui, le Seigneur Jésus-Christ, mais que c'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il pourra pas venir à la repentance. Lui, c'était lui qui était important. Alors, il faut pas avoir peur de confronter. Je vous dis pas par là qu'on doit assommer tout le monde, mais pour être capable de discerner le mensonge à travers la vérité, il faut la scruter, la vérité. Il faut la connaître. Il faut s'en imprégner. Il faut demander au Seigneur Jésus-Christ, par son esprit, de nous révéler des choses, puis de nous guider, de nous conduire. Alors que le Seigneur bénisse ses paroles dans nos cœurs ce matin. On va prier pour terminer. Notre Dieu, notre Père, on veut te louer, te rendre grâce, te remercier ce matin pour ta parole qui nous instruit, qui nous enseigne. Notre Dieu, on a vraiment besoin de toi continuellement parce que tu es la source d'eau vive. C'est toi, notre Dieu, qui a tout mis en œuvre, qui a tout mis en place. Garde-nous, notre Dieu, de s'éloigner de cette source limpide pour aller vers des citernes crevassées. Garde nos cœurs et nos pensées continuellement à toi, notre Dieu. Merci pour l'abondance que tu nous donnes présentement, puis ne permets pas qu'on oublie, Seigneur, les bénédictions que tu nous as accordées par le passé. Qu'on puisse rester attaché à ta parole, Seigneur. Dirige-nous en toutes choses. Bénis mes frères et mes sœurs ici à Bécomo. Garde-nous, Seigneur, dans notre travail pour l'évangélisation ici, dans les alentours, en commençant par nos voisins qui nous entourent. Dirige-nous, notre Dieu, en toutes choses. Garde ta main sur notre frère Marc et sa femme Joanne qui vont partir pour le voyage, Seigneur, que tu leur donnes du repos. Tu les accompagnes là-bas. Garde-nous, Seigneur, ici aussi fidèles à toi, les yeux tournés vers toi continuellement, à la personne de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.